Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Les grandes gueules du sport dans un super dimanche de sport avec la finale de Roland-Garros, Zverev Koboli à 15h, le Grand Prix de Monaco également à suivre. Allez, il faut écouter RMC, comme ça vous écoutez tout en même temps et vous écoutez également le Tour Auvergne-Rhône-Alpes qui va arriver juste avant normalement la finale et le départ du Grand Prix de Monaco. On est avec Christophe Cessieu, avec Marc Madiot, Julien Beneteau et Alizé Cornet. Dans un instant, le titre européen de l'UBB excuse-t-il le gros raté en top 14 puisque les Bordelais, champions d'Europe il y a deux semaines, se sont fait sortir avant les phases finales hier au terme d'un multiplex absolument dingue. Hein. Franchement, Christophe, le multi de rugby là en top 14, on est passé par toutes les émotions.
Ah, c'est génial, il y a du suspense, tout est relancé tout le temps. C'est comme la Q3 en Formule 1 hier. Hein.
Ouais.
Même genre.
Ah non, mais là, il s'est passé des choses. De toute façon, l'émotion.
C'est le côté positif d'un championnat où il y a des phases finales. Il y a de l'enjeu, alors qu'au foot, les deux dernières journées, trois dernières journées, c'est regardable. Et au rugby, bah, y a toujours de l'enjeu.
Ouais, mais là, c'est vrai qu'il y avait un enjeu, en plus, avec beaucoup d'équipes qui étaient concernées, ouais, effectivement, par la qualif. Retrouvez la première heure des grandes gueules du sport en podcast. On a parlé de la finale de Roland, avec Zverev. Est-ce qu'il a toute la pression sur les épaules? En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, remportez votre enceinte portable Mino X. Pour la remporter, appelez le 32-16, touche 4, envoyez sport au 7-32-16. Mais d'abord, sur le ring, Paul Sexas est de retour à un mois du tour.
RMC, le ring des GG.
Ici avec Paul Sexas, 19 ans, nouveau chouchou du public.
Pour l'instant, Paul Sexas est très, très, très bien accroché à la roue de Tadej Pogacar.
C'est solide. Il peut quasiment plus lui rien y faire.
La France tenait enfin le successeur de Bernard Hinault.
Le maillot groupe à moi. Pas mal.
Dernier vainqueur tricolore du Tour de France.
Oui, mais le vélo et le sport en général, c'est pas une science infuse.
Avec déjà 5 victoires cette année.
Derrière lui, eh bien, on retrouve Mathieu Van Der Poel, le duel,
dont la prestigieuse flèche wallonne.
Ouais, il est surveillé comme le feu sur le lèvre.
Il faudra toujours le surveiller comme le lait sur la soupe.
Paul Sexas est devenu un phénomène de précocité.
Ça va être la goutte d'huile qui va faire déborder le feu. Oui,
mais... Il a gagné le surnom de prodige français.
Il y a un chrono qui avance à aller chercher un petit patch.
On s'en lasse pas.
Hein. On embrasse. Boule, moi, j'ai bien aimé. Peut-être le nom de son bar à Nantes.
Ouais, on embrasse notre producteur, Kian Vérov. Évidemment, notre réalisateur, Alban Azaïs. Christophe Cessieu, c'est une bonne préparation mentale pour
France. Ah, voilà, là, je suis au top. Dans ça, ouais.
Je n'ai pas validé ce montage.
Hein, oui, c'est
des faux
culs, tout cela.
Allez, c'est reparti pour Paul Sexas. À plus d'un mois après sa joute avec Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège. Souvenez-vous, il y a 4 semaines de sa première grande boucle, le Français de 19 ans retrouve la compétition. Ça commence aujourd'hui et jusqu'à dimanche prochain, donc sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le nouveau nom du critérium du Dauphiné qui d'ailleurs avait perdu son libéré depuis quelques années déjà. C'est ça, suivre toute la semaine sur RMC. Pas de Pogacar, pas de Vingegaard, mais des adversaires de rang comme Del Toro, Ayuso, Jorgensen, Almeida, de la très haute montagne et un chrono par équipe. Les GG, je vous pose la question. Est-ce que Paul Sexas doit envoyer un message à 4 semaines du tour? Tiens, je vais refaire rapidement un petit tour de table. Julien Beneteau.
Oui.
Alizé Cornet.
Oui.
Christophe Cessieu.
Oui.
Marc Madiot.
Non.
Ah, Marc Madiot dit non. Marc Madiot dit non, comme 44% de nos votants sur le compte X des grandes gueules du sport.
Donc ça veut dire que 56 dit oui quand même.
56, ouais, effectivement. Bac S ou bac L?
S, mais ça... avec une très pauvre moyenne.
Merci pour ta transparence. Mariazé, notre voix.
Tu lâches rien quand même. La langue qui fourche, ouais, c'est barre.
J'ai pas une mention à
l'époque. Tu risques de le réentendre pendant des années.
Sans doute, il n'y a pas eu de mention, pas besoin de le préciser.
Voilà, c'était la dernière émission de Julien Beneteau, profitez-en. Maria, c'est notre voix du cyclisme sur RMC et sur la route du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Salut Maria.
Salut Georges, salut tout le monde.
Tu vas nous faire vivre la course sur place toute la semaine. Tu as rencontré Paul Sexas hier et il se présente au départ avec de l'ambition. Hein.
Oui, bah, il ne s'en cache pas, hein. Forcément, Paul Sexas, il est là pour gagner, mais il ne veut quand même pas qu'on parle de lui comme le grand favori.
Du favori, je sais pas, parmi les favoris, je pense. Il y a deux très bons coureurs au départ, bien sûr. C'est quand même une des plus grosses courses par étape de l'année. Forcément que je viens parmi les favoris, mais il y a d'autres coureurs très solides.
Sauf qu'en face, ses deux principaux concurrents sont Isaac Del Toro et Juan Ayuso. Et le Français les a écrasés sur le Tour du Pays Basque il y a deux mois. Entre-temps, le coureur de 19 ans a passé trois semaines en altitude. Son manager, Julien Jourdi, est plus que confiant.
Il a mis une bonne fessée à l'ensemble du peloton durant cette semaine-là au Pays Basque. En revanche, je sais pas, mais c'est clair qu'ils vont arriver à couteau entre les dents. On a affaire à un phénomène et voilà, petit à petit, nous, on s'habitue. Et c'est avec le plus grand des plaisirs qu'on se retrouve ici avec ce statut de favori.
Ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aussi une façon pour Paul Sexas de préparer le Tour de France. Il pourra se tester au contre-la-montre par équipe mardi, première étape du Tour de France, mais aussi lors de l'arrivée finale au plateau de Solaison dimanche prochain, étape aussi au programme du Tour. C'est l'une des raisons pour lesquelles le leader de la Décathlon CMA-CGM a choisi cette course.
On voit tous les ans que les mecs qui marchent au Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ça marche aussi au Tour. C'est un bon point de passage, permet de bien se juger, mais aussi de faire des belles séances avant le Tour.
Et celui qui a peut-être encore plus hâte que nous d'être au 4 juillet, c'est le patron de la Grande Boucle, Christian Prudhomme, qui se réjouit du duel qui l'attend.
Bien sûr qu'il n'y aura pas Pogacar, il n'y aura pas Vingegaard. J'ai envie de vous dire que c'est même mieux. C'est-à-dire que la grande confrontation, elle aura lieu au mois de juillet. Bien évidemment, il ne l'a pas caché lui-même, qu'on attend le meilleur de Paul Sexas. Alors quand on parle du meilleur de Paul Sexas en 2026, en l'absence de Pogacar et Vingegaard, oui, on rêve grand.
Et il serait pas impossible de voir Paul Sexas s'imposer dès aujourd'hui. 146 km entre Vizy et Saint-Imier et plus de 3000 mètres de dénivelé positif au programme. On pourrait déjà voir la première bataille entre les trois favoris.
Merci beaucoup Maria, et Jérôme Coppel sera avec toi au commentaire. Marc Madio, donc contre les grandes gueules du sport ce matin. Tu penses que Paul Sexas ne doit pas forcément envoyer un message sur cette compétition à un mois du Tour de France? Pourquoi?
Pourquoi aussi? Il n'y a aucune obligation à le faire. Il est dans sa phase d'approche du Tour de France. On sait que de toute façon, il va être compétitif sur ce Dauphiné. Après, j'ai envie de dire, il faut qu'il laisse la course se dérouler. Il aura des opportunités. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il saura les saisir. Mais il n'a pas de message à envoyer à travers ce Dauphiné. De toute façon, les messages, on va les faire pour lui. Donc, il n'a pas besoin d'en préparer. Il suffit de regarder l'engouement qu'il suscite, les questions qu'il pose et que tout le monde a envie de découvrir ce qu'il va produire sur ce Dauphiné. Donc moi il a pas de message à envoyer, il a juste à dérouler sa course, à faire ses gammes et à se mettre en situation pour être prêt pour le prochain Tour de France. Parce que ce qui est important pour lui, on l'a compris, c'est qu'il a envie d'être exceptionnel sur le Tour, et il le sera sans doute. Maintenant, c'est le Dauphiné, c'est une mise en route. Je pense qu'il a tout pour gagner ce Dauphiné, mais il n'a pas à s'arc-bouter pour le gagner.
Christophe, Christophe qui n'est pas d'accord avec Marc Madio, c'est un événement.
C'est une partie psychologique, c'est une partie d'échec là, qui est en train de se dérouler avant le départ du Tour. Tu as vu que tous les spécialistes, il n'y a aucun des spécialistes qui s'aligne dans la même épreuve. Donc à distance, ils se jaugent et ils avancent leur pion. Et effectivement, si Sexas n'avance pas ses pions sur le Dauphiné, ça va poser des questions, et toutes les questions vont lui être posées au départ du Tour de France. Vingegaard a posé ses pions en remportant le Tour d'Italie. Pogacar a posé ses pions tout au long de la saison en gagnant tout ce qu'il voulait. Sexas, maintenant, s'il veut rentrer dans la cour des grands.
Mais est-ce qu'il faut qu'il fasse l'effort de rentrer dans la cour des grands maintenant?
Écoute, j'ai l'impression qu'il a envie, et c'est lui qui le dit. Il est ambitieux.
Oui, d'accord, mais
il dit j'y vais pour gagner. Donc, s'il ne sait pas envoyer un message.
Il peut aussi profiter de la situation.
Oui, de la jouer humble, de la jouer
au lendemain.
Moi, je ne suis pas favori.
Il y a lui, mais il y a aussi son équipe autour. Je pense que moi je serais à leur place, je rôderais l'équipe toute la semaine, je prendrais des bons automatismes, je me mettrais en situation progressivement de gérer et de réguler la course. Mais
je prendrais mon temps.
Est-ce que sur l'aspect psychologique, envoyer un signal comme quoi quand même?
Mais voilà. On l'a déjà le signal, on sait que.
Pourquoi ne pas l'entériner.
Christophe ici présent.
Une performance à
Christophe ici
du
présent
tour.
L'a baptisé l'élu.
Mais c'est toi qui l'as dit aussi.
Non. Ressors les moments de radio qu'on a fait ce jour-là. Ouais. Christophe a dit, et si c'était l'élu? Et j'ai répondu, oui, c'est l'élu. Mais le mot élu vient de Christophe. Et on sait qu'il est l'élu. Donc il prend son temps.
Ça vient de toi, là.
Il prend son temps.
Mais regarde, une Mirandreva, elle a 19 ans, elle n'a pas pris son temps pour gagner Roland Garros.
Je ne te dis pas qu'il ne va pas gagner le Dauphiné. Je dis juste qu'il s'installe tranquillement.
Il n'est pas dans l'obligation de le faire.
Il n'est pas dans l'obligation de le faire.
Si tu étais son manager, tu lui dirais de la jouer humble et caché.
Non, mais on a l'impression
de venir tranquillement.
Je pense que c'est une erreur de la part de son équipe de trop vouloir le.
Mais son équipe ne fait rien. C'est lui qui se met aussi en situation. Après, qu'il laisse le temps au temps. Le temps est pour lui.
Mais on a l'impression
qu'il a tous les ingrédients pour être au-dessus de la mêlée. Donc, tranquille, j'avance. Parce qu'attendez, il y a quand même un élément important. C'est que là, on est au Dauphiné. On est le 7 juin.
Oui.
Alors, le Tour de France se termine le
25 ou 26 juillet.
Voilà. La route est longue.
Oui, mais lui est ambitieux à l'Elysée. Ouais. C'est vrai que tu parlais de Mira Andreeva il y a quelques instants. En fait, on a l'impression que la jeune génération, on l'a comparé à Marchand, on l'a comparé à Wembanyama, à Mbappé. Ils n'ont plus le même logiciel, en fait, d'attendre.
Oui, ils ont un peu. Alors, on a toujours eu des athlètes précoces. Hein. Ce n'est pas juste de maintenant. Mais en fait, je pense que la question qui te gêne, toi, Marc, c'est doit-il envoyer un message?
L'obligation.
L'obligation.
Mais si on te pose la question autrement, qu'est-ce que ça pourrait lui apporter pour le Tour de France d'envoyer ce signal à 4 semaines?
Il se sentirait plus fort.
Peut-être arrondir un petit peu.
Il est déjà fort.
Arrondir un petit peu la question.
Ouais, mais s'il y a un couac.
Quand même.
À l'inverse, parce que depuis le début de la saison, il n'a pas de couac, c'est que ça. Il se présente. Il est à la bagarre. Il est à la bagarre.
Pas de malheur, toi. Hein.
Non, mais il est à la bagarre avec Pogacar au Strade Bianchi, à Liège. Il gagne le Tour du Pays Basque. S'il y a un petit couac là autour d'Auvergne-Rhône-Alpes,
ce sera pas un drame.
Non, mais ça va lui mettre le doute. Il joue peut-être pas la gagne, mais ça peut.
Oui, mais le doute pour moi, il est pas par rapport au Dauphiné. S'il y a des doutes qui s'installent, ils s'installeront pendant les 3 semaines du tour.
Mais c'est là où ça va être plus compliqué. Justement, de tenir une semaine entière au Dauphiné, enfin autour d'Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce que avec des grandes performances, est-ce que ça va pas.
Mais il va faire des belles performances.
Être la meilleure préparation.
Il n'y a pas de doute là-dessus.
Il va faire des 3 semaines du tour.
Il va faire des grandes. C'est pas parce qu'il va réussir à outrance son Dauphiné qu'il fera forcément un grand tour derrière. Moi, je serais plus dans une.
Oui, mais ça va activer un engouement populaire encore plus important.
Moi, j'aime bien la mentalité de Marc parce qu'il est serein. Il est serein, c'est vrai. En fait, il panique pas. Il se dit, non, de toute façon, le résultat va arriver, quoi qu'il arrive. Donc, le mec est fort, le mec est.
Moi, je serais à sa place.
Il n'y a pas besoin de faire
un envoyé de. Là, je ferais plus une montée en puissance régulière sur ce Dauphiné pour arriver au max de ses capacités sur le tour. L'objectif que doit avoir Sexas et son équipe sur ce Dauphiné, c'est de se mettre en situation de gestion de tout ce qui va se produire pendant les 3 semaines du Tour de France. Là, il a une semaine pour se réguler, pour s'organiser dans les petits détails qui accompagnent le cheminement d'une équipe et d'un coureur sur une grande course à étapes. Et il y a plein de petits détails qu'il doit encore réguler. Et quand il les aura régulés tout au long de la semaine, on va pas forcément le voir. Ça va pas forcément être extraordinaire. Mais lui, en interne, et avec son staff, ils vont prendre les bons automatismes. Et
là, c'est quoi? C'est une prise d'information?
C'est le travail
c'est
de l'ombre.
Prise d'information.
Ça veut dire c'est à eux de prendre la course
Pas forcément qu'au niveau de la course.
De gérer
tout ce qui se passe sur et autour de la course. Et c'est tous ces petits détails-là qu'il faut qu'il régule, qu'il organise, qu'il gère et qu'il anticipe. S'il fait tout ça pendant toute la semaine, et le résultat au bout de la semaine, j'ai pas trop de doute, il a de grandes chances de remporter ce Dauphiné. Ce qui compte, c'est qu'il soit en capacité d'intégrer et de réguler les petits détails qui vont lui permettre
d'ajuster.
Tu as trouvé le mot juste, d'ajuster pour être au top au départ du tour.
Tu m'as apaisé.
C'est fou.
Je commençais à être un peu euphorique là et en fait je me dis bon. Kevin au 32-16 qui est là. Serein. Tu nous appelles de Loire-Atlantique. Salut Kevin.
Salut Georges, salut les grands gars.
Est-ce que tu es sur la ligne de Marc Madio? Est-ce qu'il doit envoyer un message ou pas à 4 semaines du Tour de France, Paul Sexas?
Je bois les paroles de Marc et je suis totalement sur la même ligne. Moi ce que je pense c'est que parmi les grands cadors du Tour de France, il y a guère que Pogacar aujourd'hui qui considère Paul Sexas comme un candidat crédible au podium parce qu'il a vécu dans sa chair, j'ai envie de dire, sur Liège-Bastogne-Liège, le niveau de ses chasses. Il a été obligé de s'employer plus que ce qu'il imaginait pour l'emporter ce jour-là. Quand on voit les déclarations de Vingegaard, de Remco, et bien on voit que finalement il tempère pas mal le niveau de Paul Sexas. Vingegaard, il a un seul adversaire, c'est Pogacar. Et pour Remco, je pense que son principal adversaire, c'est peut-être Florian Lipovic dans sa propre équipe. Donc moi, je pense que Sexas, en effet, il a les moyens de gagner ce Tour de Vingegaard-Alpes, mais il a pas besoin de l'écraser s'il a les capacités de le faire, parce qu'il y a pas des peintres en face quand même.
Ah bon, on dit pas qu'il faut l'écraser, mais en tout cas, envoyer un message, c'est le gagner, un minimum.
Non, ouais, mais moi,
sachant que lui l'annonce. une ambition.
Au contraire, je pense que le message qui pourrait être intéressant à envoyer, je te dis pas qu'il faut qu'il fasse, qu'il mette la main sur le frein à main, mais c'est de dire, je suis peut-être pas si fort que ça, les gars. Pour peut-être se garder sur la première semaine dans le Pays Basque, où on va avoir peut-être des étapes un peu décousues, une certaine peut-être latitude, alors pas de la part de Pogacar, mais de la part de Vingegaard ou de l'équipe de Remco, pour peut-être gratter quelques petites choses.
Mais, voilà. mais moi, je me pose la question quand même. Merci Kevin de nous avoir rappelé, parce que on l'a vu à chaque fois, ce garçon Paul Sexas qu'on découvre aussi, Christophe, depuis le début de la saison, il a une envie d'être protagoniste. C'est dans son ADN. Tour du Pays Basque, il est attaqué pratiquement tous les jours.
Il sera protagoniste. Il sera protagoniste.
Mais donc il envoie des messages.
Méfiez-vous, méfiez-vous. Naturellement. Méfiez-vous des propos de Pogacar.
Il me fait peur quand il parle comme ça, Marco.
Méfiez-vous.
Ah non, mais Pogacar qui en gros le désigne comme le rival.
Pogacar, c'est un auto-broyeur.
Toi, tu penses qu'il a envie de le rosser sur le Tour de France? Est-ce que tu nous dis quelques semaines?
Je pense que Pogacar.
Oui, il va marquer son.
Va essayer. Alors, je dis pas qu'il va y parvenir. Va essayer de rentrer dans la tête de Sexas comme il le fait
avec Vingegaard.
Comme il l'a fait avec tous les autres.
Bennett, quand tu vois
y compris avec ses propres coéquipiers.
Conférence de presse hier de Paul Sexas. Il y a plus de 60 journalistes. C'était une conférence de presse de foot, hein. Presque. On voit rarement ça. Non, mais on parlait des détails à régler.
Bah, justement, là-dessus, là, je
parce que s'il gagne, on se disait avec Christophe depuis des semaines, s'il gagne autour de Auvergne-Rhône-Alpes, là, l'enthousiasme qu'il va y avoir autour de lui, qui est déjà important. Avant le Tour de France, ça va être.
Mais il est déjà, sera déjà là.
Folie.
Il
gagne,
il gagne pas le Dauphiné.
Justement, ça peut le porter aussi.
S'il se prend une rousse sur le Dauphiné, ça va un peu calmer tout le monde.
Il va pas se prendre de rousse. Une répétition générale pour le Tour de France sur tout ce qui entoure la course. Je vous écoute et le Tour de France, c'est vraiment un grand cirque au sens large du terme. Et je pense que effectivement, je comprends quand Marc dit, il faut qu'ils prennent leur marque, l'équipe. Sexas sur une fois que l'étape est terminée, qu'est-ce qui va se passer, les protocoles, les choses comme ça, tout ce qui va faire que pendant trois semaines, ça va
oui,
être.
Oui, c'est une répétition générale,
exactement.
En fait.
Ouais,
bien sûr. Bon, même si les protocoles sur le Dauphiné, ça n'a rien à voir avec ce que tu vis sur le Tour de France. Hein.
Est-ce que Marc a réussi à convaincre les auditeurs? Moi, ça m'intéresse. Est-ce que ça a augmenté les.
Alors, Paul Sexas doit-il envoyer un message à quatre semaines du Tour de France sur le compte XDGG? Vous dites non à 43%. T'as perdu un point, Marco. Alors, t'as gagné à l'Isée.
Moi, je t'ai trouvé très bon. Moi, tu m'as convaincu.
Marco, va à Roland Garros, va motiver Zverev avant la finale là. Tu vas voir, il va rentrer apaisé sur le terrain.
Va motiver les Français.
Allez, oh, la balle perdue. Il faut toujours qu'il envoie une balle celui-là. Allez, tout de suite, on va parler rugby. L'UBB a pris la porte hier. Tiens, il faudrait que tu ailles peut-être à Bordeaux. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dans un instant, le j'y crois pas, spécial Coupe du Monde à J-4, évidemment, du match d'ouverture, où il y a Estadio Azteca, entre le Mexique et quelle équipe d'ailleurs? Je m'en rappelle plus. Le Mexique face à l'Afrique du Sud, les Bafana. Ça va être super, je pense. Il va avoir une sacrée ambiance, sur le début de la Coupe du Monde. Alizé a déjà noté toutes les rencontres à 3h du matin, 4h du matin. Est-ce que je vais regarder le match entre l'Ouzbékistan et le Congo? Mais oui, bien sûr.
Irak, quoi,
la Coupe du Monde.
Ouais, bien sûr, la Coupe du Monde, on est là. Irak, France, bah ça oui.
Ouais, non, mais Curaçao, je sais pas quoi.
Non
bah, là, non, c'est la première Coupe du Monde où je vais pas regarder tous les matchs.
Mais non.
Eh ouais. Mais c'est pas à cause du décalage horaire.
Bah, y a trop de matchs.
Mais oui, il a raison, Christophe.
Non, mais ce premier tour a pas beaucoup d'intérêt, il faut bien le dire.
Bah, attendez, on va en parler dans un instant, les amis.
Il y a
5
qualifiés sur 4.
Vous savez quoi, vous allez tout écouter sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde, parce qu'on ne va pas dormir, toute l'équipe de l'After est sur place, notamment à l'heure américaine, et il y a la radio digitale 100% Coupe du Monde pour tous les matchs en intégralité. Mais d'abord, énorme coup de tonnerre en top 14, puisque l'UBB finaliste lors des deux dernières saisons ne participera pas à la phase finale du championnat pour la première fois depuis 2019. Les barrages verront s'affronter samedi prochain. Pau face au Racing 92, le vainqueur affrontera Toulouse. Dimanche prochain, Stade Français reçoit La Rochelle. Le gagnant sera opposé à Montpellier dans le dernier carré à Marseille. Et donc l'UBB a cédé à Chamond-Delmas hier à Clermont et glissé hors du top 6. Punchline de Yannick Bru, le manager bordelais.
RMC, la punchline GG.
Ben, cette saison, on l'a vécu comme une descente en bobsleigh ou un tsunami que tu prends dans la figure. T'es brinque-ballé à droite à gauche entre plusieurs compétitions. On n'a pas eu une minute pour souffler. Je crois que c'est le 35e match aujourd'hui qu'on jouait, je crois. Tout ça, c'est passionnant, stimulant. C'est beaucoup de bonheur d'arracher cette deuxième étoile à la Champions Cup. Mais ce soir, c'est le constat qu'on termine sur une note amère et qu'on a eu des manques liés à cet enchaînement de matchs. Il faudra qu'on réfléchisse bien, à tête froide.
Réfléchir à tête froide, c'est évidemment ce qu'on ne va pas faire ce matin.
Ça sent le vieux contre-coup quand même, cette histoire.
Ah, là, c'est un contre-coup, effectivement.
Ça sent le plan où on va laisser tomber la Coupe d'Europe.
Oh ben, l'année prochaine, peut-être, effectivement. Parce qu'ils ont lâché des plumes, on rappelle, ils ont été sacrés il y a deux semaines. Oui. Ils étaient allés chercher la deuxième étoile, on en avait beaucoup parlé ici. Eh ben, du coup, je vais poser une question très simple, GG. Le titre européen de l'UBB, excuse-t-il le crash en top 14? Oui ou non, Christophe Cessieux?
Oui. Plutôt.
Julien Benneteau?
Oui.
Alizé Cornet?
Alors, je ne sais pas si ça l'excuse, mais ça l'explique.
Marc Madio?
Je suis perdu, oui et non.
Ah, là, je vous trouve quand même bien sympa. On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12.
On ne peut pas cracher sur une champion d'Europe. Non. Imagine le PSG gagner la Ligue des Champions, ils ne sont pas champions de France.
Et back to back.
S'ils ne sont pas champions de France, tu les excuses parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions.
Ouais, et la différence, c'est que le PSG est largement au-dessus de la concurrence, alors que l'UBB, dans le championnat de France, t'es opposé à des.
C'est pas
des
niveaux Ligue des Champions, Ligue 1 et Champions Cup et top 14. En termes de prestige aussi, on est d'accord.
Ils n'ont peut-être pas encore les ressources pour enchaîner sur tous les tableaux comme ça.
Effectivement, c'est ce qui semble être le cas. Tiens, on a Pierre Thévenet qui a commenté le match à Chaban-Delmas hier, qui est avec nous. Salut Pierre.
Salut à toutes et à tous. Ah.
D'ailleurs, Pierre, j'ai l'impression que tu n'es pas du tout d'accord, toi, avec les GG.
Non, les joueurs, eux, ne sont pas forcément d'accord. Donc,
qu'est-ce qu'ils ont dit?
Ce qui se dit à Bordeaux. Non, mais ils sont très déçus, ils sont très frustrés, évidemment, et pas du tout réconfortés par la Coupe d'Europe. C'est surtout ça qu'il faut dire. Pierre Beauchâtel, après le match, dit que la Coupe d'Europe, c'est très bien, mais que le top 14, c'est un long marathon qui dure 11 mois et que quand tu t'effondres comme ça et que t'es même pas dans les 6, t'as l'impression d'avoir bossé pour rien. Et c'est ça qui remontait surtout. Il y avait vraiment de la déception. Moefana avait du mal à trouver les mots après la rencontre, d'autant que dans le scénario c'est dingue parce que Bordeaux mène 24-7 sur la rencontre et explose complètement en deuxième mi-temps en prenant un 24-0. Yannick Bru parle d'une performance qui n'est pas acceptable. Donc en tout cas il y a beaucoup de frustration et on a vraiment l'impression, pour revenir sur la Coupe d'Europe, qu'on a eu deux saisons parallèles à Bordeaux cette année. La Coupe d'Europe où ça a été un monde féerique où tout a fonctionné, la campagne exceptionnel, ils vont chercher le doublé et ça a été beaucoup plus dur toute l'année en top 14 avec les blessures, 4 défaites à la maison, elle a l'impression d'avoir aucune marge, une énorme dépendance au cadre aussi parce que quand Jalibert n'était pas là, aujourd'hui c'était la catastrophe et du coup quand on compare à l'année dernière, on a un peu l'impression d'une régression ou en tout cas que Bordeaux l'année dernière qui a eu très peu de blessés a pu lutter mais dès qu'il y a quelques absents, Bordeaux n'est pas capable de faire les deux.
Christophe est pas du tout d'accord.
Tu peux pas parler d'une régression quand un club marche sur tous les autres, bat le champion d'Angleterre, bat le champion de France, balle
de
champion.
Ils sont en finale de top 14 l'an dernier.
Non, mais
Christophe,
franchement, ils ont marché sur la Champions Cup cette année. Donc, tu peux aujourd'hui, il y a quelques années, on considérait ça comme exceptionnel de réaliser le doublé top 14.
Mais tu sais que ça allait moins désormais, Christophe.
Ça allait un peu moins cette année.
Même Toulouse n'arrive pas à le faire.
Mais Toulouse, il n'y arrive plus. Ils l'ont fait il y a quelques années. Et Bordeaux, je pense, a pas bien géré l'après-victoire en Champions Cup. On en parlait hier. Je suis désolé, mais quand tu fais la fête pendant 4 jours en suivant une victoire de Coupe d'Europe, tu te mets des bâtons dans les roues pour espérer remporter derrière le top 14 ou tout au moins.
Et donc c'est un échec
pour le top 6. Donc,
j'allais dire, c'est ça qui est cruel dans le sport, c'est que tu peux jamais vraiment célébrer tes accomplissements parce que là, on le voit, il y a quelques semaines, il y a deux semaines, c'était presque l'une des plus grandes joies du club d'avoir remporté ce back-to-back au titre européen. Et puis au final, deux semaines plus tard, ils sont au fond de la mine parce qu'ils n'ont pas réussi à se remettre en route, à rebondir. Et en fait, vraiment, le sport, c'est ingrat. Tu peux vivre une joie intense et puis deux semaines plus tard, te dire mais en fait, non, ça ne fonctionne pas, on ne fait pas les bonnes choses. Mais ça peut être aussi la source d'une remise en question pour savoir ce que peuvent mieux faire le club et les joueurs. Là, en l'occurrence, si ça a été mal géré.
Et du système en général. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur la Champions Cup, tu as 8 matchs à cibler, 4 matchs de poule et 8e quart demi-finale. Un club comme Bordeaux, ils ont les internationaux. Donc, ils doivent cibler les matchs en fonction de la forme des internationaux par rapport aux 15 de France. derrière, pour le top 14, si tu mets un peu la Champions Cup en priorité, derrière, pour le top 14, c'est très compliqué. Je sais que dans certains clubs, il y a des managers, ils ont dit à leur cadre, comment je fais les gars ? Je vous laisse au repos pour le 15 de France. Vous êtes brillants avec le 15 de France. Je vous récupère. Vous, on fait la Champions Cup ou on fait un ou deux matchs de top 14 et après, vous êtes soit blessé, soit cramé, il faut que je vous laisse au repos. La gestion, elle est compliquée. Bordeaux, ils ne perdent pas le championnat hier. Oui, s'ils gagnent, ils sont qualifiés. Mais dans la saison, ils n'ont pas réussi, avec une équipe un peu remaniée, prendre des points.
C'est un crash, franchement. Là, j'utilisais ce mot tout à l'heure. L'UBB qui n'est pas en phase finale, c'est un crash.
Oui, c'est un crash.
C'est une équipe qui est annoncée comme une favorite peut-être pour renverser Toulouse cette année.
Oui, et le Stade Toulousain qui n'est pas dans le dernier carré de la Champions Cup,
c'est un crash.
Mais Christophe, à un moment là, il y a des crashs partout.
Mais au bout du compte,
tu finis la saison avec un trophée.
Mais quelle hypocrisie. Vous êtes un hypocrite, Christophe.
Mais ils ont eu beaucoup de blessés, beaucoup de trucs. L'année dernière, Toulouse, à un moment donné, quand ils ont des blessés, et ben ils perdent contre Bordeaux.
Attendez, vous étiez beaucoup à être ici, excuse-moi Pierre, il y a deux semaines, souvenez-vous, après la finale de la Champions Cup, Laurent Marty, le président de l'UBB, est venu de lui-même parler à la presse derrière en disant l'importance maintenant c'est le bouclier de Brennus, on va passer
à un cap supplémentaire pour ça. Si on veut devenir un grand club, il va falloir qu'on ait un Brennus entre les coupes d'Europe. Il n'a pas dit de faire le doublé.
Ils ont tout de suite parlé de l'importance de repartir.
J'ai passé la soirée du samedi soir
avec
les Bordelais, avec leur président, avec leurs joueurs. Je peux te dire que Laurent Marty, après la réception officielle, est parti avec ses joueurs, les a invités en boîte de nuit, ils sont tous partis faire la fête. C'est normal que tu fasses la fête. Je ne dis pas le contraire, mais le discours n'est pas tout à fait en adéquation. Si tu veux espérer remporter le top 14, tu dis bon les gars, maintenant on a picolé des coups, maintenant tout le monde va se coucher. Ce qu'ont fait les Montpellierains, ils ont bu des coups, ils sont allés se coucher le soir de leur situation, donc il y a un aboutissement pour Bordeaux.
Mais l'année prochaine,
je pense que l'UBB sera moins sur le coup sur la Champions League et va tout miser sur
l'année prochaine. S'ils doivent jouer un club d'Afrique du Sud en match de poule, ils iront peut-être pas avec l'équipe A, ils vont peut-être reposer leur cadre 10-15 jours de plus et jouer le top 14 et se mettre à l'abri comme arrive à le faire Toulouse. Depuis 2 ou 3 années, ils se mettent à l'abri très vite en top 14.
Marc, tu le disais il y a 2 semaines, tu disais l'important c'est le Brennus quand même aussi pour l'UBB.
Et puis je pense que le manager de l'équipe aujourd'hui tire une sonnette d'alarme pour avoir peut-être des moyens supplémentaires et des effectifs supérieurs assumer les deux
effectifs de folie, Marc.
Mais tu vois bien qu'il y a eu un quoi.
Mais non, mais c'est qu'ils sont
où? Ils sont cramés.
Les matchs de Champions Cup, c'est des matchs terribles. Au bout d'un moment,
c'est très bien de faire le doublé.
Christophe, tu l'as dit toi-même que c'est pas hier qu'ils le perdent le match. Ils perdent 4 fois à la maison cette saison. Donc ils sont, c'est toi. Non, mais ils sont cramés. Oui, c'est sûr. Ils sont allés au bout du même. Il y avait plus d'essence du tout là dans le moteur bordelais. Mais ils perdent 4 fois chez eux et c'est ça qui pose problème. Et ça, Toulouse, même avec des équipes B, arrive à le faire. Quand tu disais, Christophe, hier Toulouse, l'année dernière, Toulouse n'a pas fait le doublé. C'est vrai, mais ils font demi-finale de Champions Cup et ils gagnent le top 14. Là, Bordeaux n'est même pas dans les 6. Ils avaient perdu en barrage la semaine prochaine au Stade.
Ils gagnent la Champions Cup, mais ils sont finalistes, ils sont battus aux prolongations.
Oui. Donc il y a bien de régression par rapport à l'année dernière.
T'as l'impression que c'est facile, quoi, que tu peux gagner toutes les compètes.
C'est facile, je dis que quand t'es. Attendez, regardez, j'ai un message sur WhatsApp.
La Rochelle a été 2 fois champion d'Europe avant de connaître un trou pendant quelques années, et là ils s'accrochent comme des dingues pour arriver à se qualifier pour les phases finales. Il y a des phases dans une carrière sportive et dans la vie d'un club. Tu peux pas tout gagner tout le temps, à part si tu t'appelles le Stade
Toulousain. Surtout, faut faire des choix, exactement.
Mais on a le prix de Toulouse, ce que fait Toulouse, c'est anormal.
Je veux lire des messages sur WhatsApp. J'ai Fredo qui me dit ça prouve que l'UBB n'est pas au niveau de Toulouse en tant que club. Sportivement, ils sont au niveau, voire au-dessus. On l'a vu en Champions Cup en les tapant, mais là, c'est pas le sportif et les joueurs, c'est le club et le staff qui n'a pas su gérer. Romain Nins me dit question au GG, quand on est vainqueur de la Coupe, seulement 8e en France en top 14, peut-on se targuer d'être la meilleure équipe d'Europe?
Ça veut rien dire.
C'est un peu provoque, j'avoue.
Bellet.
Quoi?
Tu voulais dire un truc.
Ouais, mais tu m'as coupé, donc je sais plus. Tu lis des messages qui sont provocateurs.
Non, mais le problème de tout ça, c'est qu'il y a un décalage entre une Coupe d'Europe et le top 14.
Non, mais en fait, le rugby.
Et finir, on est en train de dire que le top 14 est plus important.
Mais bien sûr, dans le rugby français, c'est plus important.
Dans le rugby français, c'est plus impressionnant.
Mais le Champions Cup, c'est plus ludique.
Attendez, il est 10h40, Julien Benneteau vient de se souvenir de ce qu'il voulait dire. Heureusement que tu n'oublies pas tes questions sur le cours. Hein.
Bah on ne me coupe pas la parole.
Vas-y.
La semaine prochaine. Non, mais vous dites qu'on aurait fait le même débat. Parce que vous dites là que l'UBB a régressé, etc. Si c'était qualifié, je suis d'accord, c'est un crash de ne pas se qualifier à l'image de l'UBB. Mais si c'était qualifié et qu'ils allaient jouer le barrage à l'extérieur et qu'ils perdaient le barrage parce qu'ils sont cuits aux patates. Ouais. Jalibert ne jouait pas la semaine prochaine. Ils ont perdu le Big Ben. Voilà. Je pense qu'ils perdaient au barrage. On aurait fait la même chose. Vous auriez fait la même chose. Ils étaient en finale l'année dernière, ils perdent en barrage, ils régressent, etc. Donc à une semaine près, ça change pas trop.
Mais on aurait dit peut-être c'est le minimum syndical d'être dans le top 6.
Là, il y a un côté raté, en fait. Mais autant rater complètement, de ne pas faire les phases finales, tu vas pouvoir te reposer, tu vas pouvoir te reconstruire pour la saison prochaine. Ça va faire le plus grand bien parce qu'ils ont.
Ah bon, attention, il y a peut-être certains internationaux qui vont partir.
Je voulais poser la question à Pierre. Et justement, aujourd'hui, les joueurs internationaux du bébé sont éligibles pour la tournée en Nouvelle-Zélande.
Bien sûr, il y en a beaucoup qui vont y aller. Je peux vous dire qu'il y a trois. Non, je dis qu'Yannick Bru, en conférence de presse, a dit qu'il en avait déjà parlé aux joueurs en disant le malheur des uns fait le bonheur des autres et on sait que vous allez transpirer sous d'autres maillots cet été. Peut-être qu'un joueur comme Biel Biarek est déjà à 32 matchs et 2200 minutes cette saison n'ira pas. Ouais. Mais Jalibert, s'il est remis, ira. Lucu ira. Cameron Woki, Beauchaton, Lamotte, Moefana, Penaud. Il y a du monde.
C'est l'équipe de France finalement.
C'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Ouais, c'est certain.
Fabien Galthié, tout content.
Ouais, moi, j'ai croisé William Servat il y a 3-4 jours. Il sortait d'une visio avec tout le staff. Par rapport à la composition et du groupe qui va partir, et ils s'arrachent tous les cheveux. Parce qu'ils doivent donner l'équipe dans la nuit de la demi à la finale, en attendant de savoir qui sont les finalistes, parce que les finalistes ne peuvent pas y aller. Ils ont un match contre l'Angleterre A avant de partir. Ils auront un seul entraînement collectif le mercredi avec l'équipe.
Vendredi 19 à Vannes.
Voilà. Ils récupèrent les joueurs le dimanche. Ceux qui perdent en demi, ils ne peuvent pas les faire entraîner. Ils sont au repos. Donc le seul entraînement, c'est le mercredi. Et après, ils partent en Nouvelle-Zélande, où c'est l'hiver.
Oula.
Et après, ils jouent en Australie, c'est l'hiver. Et après, ils jouent au Japon, où c'est 35 degrés, 70% d'humidité.
On dirait une vie de joueur de tennis.
Un vrai casse-tête.
Ouais. Merci pour ces informations, Julien Benneteau. C'est une info JB, c'est ça, JB1 ?
JB1.
C'est ça. Attention à toi, Fabrizio Romano. Voilà Julien Benneteau qui arrive pour faire des infos. Merci, Pierre Thévenet. Merci d'avoir secoué le cocotier. Parce que là, avec des. voilà. Il y avait des. Comment il disait déjà, Christophe ?
Des gros losers.
Non, des ravis de la crèche. Allez, les grandes gueules du sport reviennent dans un instant. On va parler de la Coupe du Monde de foot qui arrive dans 4 jours.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, on est de retour dans un instant. Ne ratez surtout pas le vestiaire. Je pense qu'on va apprendre plein de choses sur nos GG, puisqu'on va parler des rituels et des superstitions. Tiens, juste très rapidement, t'avais des rituels et des superstitions, Alizé ?
Aucune,
c'est vrai ?
Non, très peu, très vraiment, peu. Ouais.
Marc Madio,
j'en connais qui en ont. Hein.
T'avais des rituels et superstitions ?
Un peu.
Julien Benneteau ?
Oui. Mais je suis pas le plus fou.
Christophe Cessieux, rituels et superstitions ?
Non.
Il oublie toujours son stylo avant les jeux du sport. Il te faut aussi une boisson avec du cola sans sucre pour t'accompagner.
J'ai des produits dopants dedans. Moi.
Ah, c'est donc pour ça.
Lui, c'est caché, s'il vous plaît.
Pour espérer battre Benneteau, il faut se charger, quoi.
Ah oui, bah d'accord. C'est les Anand Skates. Aujourd'hui et tout le week-end sur RMC, remportez votre album Panini Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec ses 350 stickers. Je vois Benet déjà participer parce qu'il ne trouve plus de vignettes. Tout est 30 minutes. Un gagnant est tiré au sort. Alors envoyez dès maintenant Panini au 7-32-16. Panini au 7-32-16. Tout de suite, le J'y crois, j'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois, j'y crois pas.
Un j'y crois pas spécial Coupe du Monde de la FIFA, RMC et la radio officielle. Ça commence dans 4 jours à l'Estadio Azteca, Mexique, Afrique du Sud. Les Bleus jouent un dernier match de prépa demain face à l'Irlande du Nord. J'y crois pas, les GG. Kylian Mbappé va bien être le patron des Bleus pendant cette Coupe du Monde. Christophe Cessieux.
Oui.
Alizé Cornet.
Oui, j'y crois.
Julien Benneteau.
J'y crois pas.
Ouh, Marc Madio ?
Oui.
Pourquoi t'y crois pas, oui. Bennett ?
Pas parce que je le souhaite pas ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai peur qu'il essaie d'en faire trop. Et je pense que le patron des Bleus sur le terrain, hein, on parle techniquement, etc.
Les questions sont volontairement ouvertes pour vous
sur le terrain. Je pense que Dembélé et Olivier peuvent prendre le
leadership.
Ouais.
Ah ouais, tu penses les deux leaders techniques.
Et je l'espère, parce que je pense qu'ils sont en meilleure forme que lui. Et qu'ils sont un peu meilleurs que lui sur le terrain.
Le coach est en place.
Voilà.
Tu crois pas, Marc?
Pour moi.
J'ai envie de dire, pour la tranquillité et le bon fonctionnement de l'équipe de France, il vaudrait mieux qu'ils prennent le lead. Parce que on se retrouve dans une situation que vient d'évoquer Bennett, je crains le pire.
Christophe ?
Oui, moi je pense que il est en place, il a la confiance du sélectionneur, c'est le patron, ses dernières prestations avec l'équipe de France ont plutôt été rassurantes, son parcours avec la Coupe du Monde, je veux dire, c'est l'un des quatre à avoir été champion du monde 2018, et puis on reste tous sur l'image quand même de sa finale face à l'Argentine, hein, il a failli renverser le match à lui tout seul, donc franchement, il y a eu quelques tendances, c'est pas à cause de lui, mais il a quand même bien fait goûter là, hein, et il bien paniqué quand même en Argentine à ce moment-là, hein, pendant quelques minutes. Il n'empêche que il reste taulier et je pense pas en plus que Dembélé est l'âme d'un putschiste et qu'il a envie de battre.
Franchement, Mbappé a l'air quand même, il a le brassard de capitaine.
Ça reste le capitaine.
Ouais, voilà, il représente quelque chose.
Symbolique, et puis même, c'est plus qu'un symbole. Comme l'a dit Christophe, c'est son histoire avec la Coupe du Monde, c'est son histoire tout court, son palmarès. Moi, je le vois bien en patron des Bleus, alors pas un patron, je sais pas, j'ai envie de dire, comment dirais-je, pas un patron pour éclipser les autres, même si on sait que Mbappé a de l'ego et tout ça. Moi, je vois bien un travail d'équipe avec un Mbappé un peu en leader. En fait, le mot patron, j'aime pas trop, je préfère le mot leader. Mmh. Comme s'il allait emmener son équipe vers la victoire en tant que capitaine. Mais ça va être à lui aussi de gérer son ego, de gérer.
Non, mais moi, je suis assez d'accord. En plus, dans cette génération, j'ai l'impression qu'il représente quand même quelque chose. Hein. Dembélé, ils ont grandi ensemble. Même Désiré Doué, qui ont quand même grandi en le regardant avec de grands yeux. Michael Olysée, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui revendique
un leadership. Ça peut être une vraie inspiration, en fait. Il peut être une vraie inspiration pour ses joueurs.
Après, il faut voir effectivement sur le terrain comment ça va se passer. Donc,
parce qu'effectivement, Olysée, Dembélé,
s'il y en a qui veut être plus protagoniste que l'autre,
ça joue pas mal. On a vu l'association Cherki Olysée l'autre jour. C'était efficace quand même. Hein,
j'y crois pas.
Pourquoi du coup Bennett
il pense que ça va pas être le leader technique. Okay. Ah non, mais Bennett, lui, il est déjà sur son tableau noir. Hein. Il est déjà regardé. Non, je pense que le 10.
J'ai fait plusieurs dispositifs que je vais envoyer à Didier.
Ah ouais, bien sûr.
Avec ou sans, à gauche ou dans l'axe.
Il est en conférence de presse tout à l'heure, on lui posera la question. T'as bien reçu les dispositifs de Bennett ça...
Oui, bien sûr, bien entendu.
Allez, j'y crois pas.
C'est imitateur. Nelson Montfort et Didier Deschamps.
Tu sais,
moi j'assure mes arrières.
Technique de
Georges,
c'est pas mal.
Ah bah t'es pas mal aussi. On va faire un duo. Réservez-nous le Jamel Comedy Club. j'y crois pas. La star de la Coupe du Monde, ça sera pas Messi, ça sera pas Ronaldo, ça sera pas Yamal, ça sera pas Mbappé, ce sera Donald Trump.
J'y crois pas.
J'en ai peur.
J'y crois pas. Je le souhaite pas.
Je le souhaite pas.
Mais... Non.
T'en as peur, Christophe?
Ouais, mais on va voir que lui. Il va être là tout le temps.
On s'en fout.
Avec ses punchlines à la con. Excusez-moi, monsieur le président. Non, mais ce mec-là, il aime tellement se montrer, faire parler de lui, qu'il va vouloir montrer que c'est sa Coupe du Monde.
Non, on s'en fout.
On rappelle quand même que la FIFA a osé lui filer le prix de la paix, là. C'était une caricature parce qu'il n'avait pas pu obtenir le prix Nobel de la paix. Cet imbécile d'Infantino est allé lui offrir ce truc-là, alors que derrière il a déclenché deux ou trois guerres. Non mais ça va être insupportable. Il va être insupportable. Déjà, il est annoncé, je crois, ce soir ou la nuit d'après.
Lundi à mardi peut-être au Madison Square Garden pour la NBA.
Les finales de NBA. Non mais qu'il aille ailleurs.
Non mais ça va pas arriver. Il va prendre la place.
Il va taper au monde du sport.
Ouais, mais bon, faut pas lui. On s'en fout.
Bien dit, Christophe.
Oui, mais en fait, je pense qu'on peut s'en foutre, mais malheureusement, ça va prendre beaucoup de place.
On va le voir.
Ça va prendre de la place. Si on veut lui
lui donner de la place.
Les matchs, on va pas y avoir une caméra fixée sur lui.
Bah voilà,
on
est pas obligé de filmer tous les matchs.
J'espère que les populations, les supporters de tous les pays vont lui réserver une bronca.
Oui, bien sûr, comme ça les visas vont rester et tout ça pour les supporters. Il y a beaucoup de problèmes de visa.
Les gens s'en foutent.
Les gens s'en foutent, mais pas sûr. Moi, je peux donner juste mon expérience à la dernière Coupe du Monde des clubs. J'étais à New York pour la finale où souvent se jouer plein de matchs de la Coupe du Monde et notamment le France-Sénégal. Il était venu pour la finale et il fallait que tous les fans viennent 4 heures avant au stade hein, parce que le président était là et vous savez tout ce que ça implique comme sécurité et tout ça. Donc quand Donald Trump va venir dans un stade, ça va avoir une influence pour les supporters aussi et également pour les suiveurs qui doivent se lever encore plus tôt pour aller
et pour les réalisateurs de télévision qui vont être obligés de diffuser les trucs en différé pour éviter les broncas justement.
J'ai peur que ce soit la Coupe du Monde de Trump. Voilà, je vous le dis. Allez, j'y crois pas. Les pauses fraîcheurs, vous savez, ces nouvelles pauses fraîcheurs là qu'on aura dans tous les matchs, hein, qu'ils fassent chaud ou pas, vont avoir une vraie influence sur les matchs. Vous y croyez ou vous y croyez pas, Julien Beneteau?
Ça va nous casser les pieds, mais ça peut avoir une influence.
Marc Madio?
Ça aura une influence, mais ce sera la même chose pour tout le monde.
Alizé?
Moi, j'y crois pas trop.
Christophe?
Ouais, moi, je pense que ça peut avoir une influence parce que regarde ce qui se passe dans d'autres sports, le basket, le hand,
les
temps morts pris par les coachs.
Ça peut
remettre une équipe en place.
C'est ce que dit Didier Deschamps. Ça peut changer les dynamiques.
Voilà, c'est un des seuls sports où il n'y avait pas justement cette possibilité.
Après, s'il y a des vraies fortes chaleurs, tout le monde sera content d'avoir.
Ah non, mais ça servira.
Il faudrait faire ça en vélo maintenant. Arrêtez, paf, au bout de 50 km. Allez, une petite pause. Et
oui, mais nous sommes les forces de la route.
Ouais, tout de suite, arrêtez avec ça. Rudy Garcia, le sélectionneur de la Belgique, tiens, là-dessus.
J'appelle ça le coaching break et non pas le cooling break. Alors il y a des moments où ça sera utile pour se réhydrater pour les joueurs et les équipes qui joueront là où il fait très chaud dans le sud du pays, au Mexique. Mais nous qui serons à Seattle, Vancouver, ça devrait franchement bien être tranquille au niveau température. Los Angeles fera un peu plus chaud. Mais franchement, c'est une aubaine. Je vais pas dire merci à la publicité aux États-Unis, mais en tous les cas, les 3 minutes qui vont m'être octroyées en milieu de première période et en milieu de deuxième période sont vraiment des moments où on pourra parler avec les joueurs, recadrer tactiquement, leur donner des conseils. Ça s'est passé comme ça contre la Croatie. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien.
3 minutes, hein, oui. Effectivement. Alors ça permet de passer des publicités à la télé. On l'a vu sur TF1 pour la première fois.
Il y a quand même un autre truc qui va être intéressant, c'est le temps de sortie pour les remplacements sur le terrain.
Oui.
Ça va être limité dans le temps.
Ils ont combien? 10 secondes. Hein.
10 secondes pour sortir.
Pour accélérer ça, un peu le jeu.
Pour le rythme du match. Ouais, ça, super. En même temps, on gagne du rythme derrière, mais on a une grosse pause de 3 minutes.
Faire des matchs hyper longs quand même, avec les pauses de 3 minutes en plus.
Mais 3 minutes, tu trouves ça long, toi, effectivement?
Non, ça passe vite. Ça passe vite. Ça permet juste de faire, voilà, comme l'a dit
Rudy,
exactement. Ça permet de faire un petit point, en fait, qui peut s'avérer super utile pour les équipes.
Ça casse le rythme, hein, quand même.
Voilà, il faut que le sélectionneur soit quand même très efficace, que le capitaine aille droit au but. Mais moi, je pense que ça peut. Ouais, j'ai changé d'avis, en fait, depuis que tu as parlé, Christophe. Je pense que ça peut faire quand même une bonne différence.
Tu vois, Lisa, elle est intelligente parce qu'elle s'est dit peut-être qu'on est dans les jeux tout à l'heure, donc je vais le mettre en confiance. Christophe.
Non, je pense.
C'est la solidarité niçoise, t'as pas compris.
Allez, un dernier
être dans le coup avec nous, toi.
Un dernier, j'y crois pas rapidement, à 4 jours du début de la Coupe du Monde. Aucun favori ne va se faire sortir en phase de poule. Je rappelle qu'on est dans une Coupe du Monde à 48 équipes, avec désormais des meilleurs 3e qui vont passer. On aura des 16e de finale. Hein. Ça va être très très long, cette Coupe du Monde. Vous y croyez qu'un gros va sortir?
Non, pas du tout.
Mais... Y crois pas?
Non,
Alizé non plus.
Non,
plutôt non.
Christophe?
Non.
Non,
non.
Bah là, le format fait que, en fait, toutes les équipes qui sont censées se qualifier vont se qualifier.
Avec un match nul, tu peux te qualifier.
Bah, avec un match nul, tu peux te qualifier. Ah,
mais j'extrapole.
J'extrapole, mais presque. Non, c'est vrai que ça donne des jokers. Ça donne des jokers.
Bah oui, mais c'est un peu tiré parce que ça faisait aussi le sel de la compète, hein, les gros qui se faisaient malmener dès le début. Alors bien évidemment, ça boutait les chitons.
Ça pouvait donner des documentaires sur Netflix. Regarde, Naxna. Si tu étais 3e qualifié, et le dernier match, il pouvait.
Il était plus tranquille, ouais.
Ah ouais, voilà.
France-Sénégal en 2002, on aurait beaucoup moins stressé après la défaite.
Ah, bah
c'est ça. Le problème, c'est qu'ils ont rajouté des matchs et il va y avoir des matchs sans enjeu. Et ça, c'est terrible dans une compétition.
Tu nous l'as vendu, cette Coupe du Monde. RMC, la radio officielle. Merci, Bennett. Vous suivrez tous les matchs en direct, évidemment, toute la nuit.
Ça commence quand, les phases finales?
Oh là là.
On y est très loin.
On n'y est pas encore.
Pendant
le Tour de France, on sort dans les 8e de finale. Quand tu seras à Barcelone, tu regarderas la France en 8e de finale. On l'espère. Allez, on revient dans un instant dans le vestiaire. On va parler de superstition et puis on va parler du Grand Prix de Monaco avec les comebacks d'Hamilton et Verstappen. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.